fermer les yeux, tendre l'oreille aux indices sonores et s'exercer à l'écoute d'un paysage sonore urbain.
Alors, c'est paysage sonore. En effet, fermer les yeux aide beaucoup à comprendre le paysage sonore. Il faut vraiment faire l'exercice.
Et là, typiquement, on a les bruits de radar, de moteur, bah, une sont... scie. Bon, voilà, on est dans un site où il y a de l'activité. On démonte une exposition. C'est attendu.
Démonte les illuminations
on démonte les illuminations
de Noël.
Donc, voilà, ça fait du bruit. C'est pas étonnant. On a une sirène, circulation.
Mais au fait, où est-on ?
Paris est une des villes les plus bruyantes du monde. On en a un peu l'illustration.
Derrière le tumulte de la ville se cache la voix posée de Jérôme Sueur. Si j'étais un naturaliste du 21e siècle, j'étais un naturaliste, je serais...
Dominé là par vraiment l'anthropophonie, on a beaucoup de sons humains, on a des
Jérôme Sueur.
Un gros camion qui est en train de décharger, d'autres camions qui passent à côté, beaucoup de promeneurs aussi. Il y a quand même quelques mésanges, on entend quelques petites mésanges, et vous voyez qu'elles sont complètement noyées là dans le bruit de la ville, hein, le bruit de l'activité humaine. Pourtant on est dans un jardin, bon, c'est pas le meilleur jour je pense, c'est pas toujours comme ça. Mais on se rend compte vraiment là que les oiseaux n'ont pas beaucoup de place acoustiquement et ça les contraint énormément. Alors on sait notamment que ces mésanges là qu'on entend, les mésanges charbonnières, en ville chantent plus aigus qu'à la campagne. C'est une manière, une stratégie d'être au-dessus du bruit humain qui est plutôt dans des basses fréquences. Donc elles évitent un petit peu comme ça. Les bruits humains, mais c'est limité évidemment. Hein.
C'est une façon de faire sa place.
C'est une façon de. Mais c'est une façon limitée, hein, parce que bien sûr c'est contraint par le corps, par l'appareil qui produit les sons, la syrinx et tout l'appareil sonore. Donc elles ne peuvent pas aller dans les aigus complètement au-dessus. Voilà, c'est une stratégie qui a été démontrée. Chez les oiseaux, c'est possible parce qu'il peut y avoir une dérive au cours de plusieurs générations, parce que ces oiseaux apprennent leur chant tous les ans, et donc il peut y avoir une dérive culturelle. Mais il y a de nombreuses espèces animales qui ne peuvent pas faire ça, qui ne peuvent pas s'adapter. Et encore une fois, cette adaptation est limitée. À qui est-ce le tour de s'adapter ?
Le nouveau monde, sur les pistes du vivant. Portrait grandeur nature de naturaliste du 21e siècle. Ce souffle, c'est celui des grandes découvertes et des expéditions scientifiques du 18e siècle à aujourd'hui. Depuis près de 250 ans, naturalistes et systématiciens parcourent le monde à la découverte de sa faune et de sa flore. Si les séquenceurs de génome ont remplacé les planches et les fusains, la diversité du vivant ne cesse de nous étonner. Les chiffres donnent le vertige. Pour 2 millions d'espèces déjà décrites par la science, on estime encore de 8 à 30 millions le nombre d'espèces toujours inconnues. Alors, qu'est-ce que l'histoire naturelle aujourd'hui ? Comment exerce-t-on le métier de naturaliste ? Quelle émotion ressent-on lorsqu'on découvre une nouvelle espèce ? Pour y répondre, vite, embarquons, avec notre curiosité comme boussole, mettons le cap sur l'aventure et allons explorer de nouveaux mondes. Sixième escale, la stratégie de la mésange charbonnière.
Position.
Jardin des plantes. Muséum national d'histoire naturelle. Jardin du roi intendance Georges Louis Leclerc. Comte de Buffon.
Latitude.
2 degrés est.
Longitude.
48 degrés nord. Jardin des plantes. Premier jour du printemps. Immergé dans l'anthropophonie du jardin des plantes, la question se pose. Quel est l'impact de l'homme sur nos écosystèmes ? Après l'aventure du terrain, le suspense des découvertes se joue au laboratoire. À une époque marquée par une baisse très importante des espèces et la menace de notre biodiversité, l'écho acoustique se révèle être un outil extrêmement intéressant pour prendre le pouls de notre planète sans la perturber. Alors, que fait-on de ces heures d'enregistrement collectées ? Que nous raconte-t-elle sur l'état de notre biodiversité et la responsabilité humaine ? Quelles pistes ouvrent l'écho acoustique pour le futur ? Notre avenir sera-t-il silencieux ? Direction le laboratoire de Jérôme Sueur au Muséum national d'histoire naturelle.
Alors, il faut les décrire, comme on décrit des spécimens, comme on décrit des planches de plantes dans l'herbier, il faut les décrire. Donc, il faut trouver des paramètres qui permettent de pouvoir les décrire, de partager en fait leur structure avec d'autres personnes. Donc, il y a différentes approches. En comportement, en bioacoustique, on va décrire à la main, c'est-à-dire qu'on va mesurer, comme on prend un pied à coulisse pour mesurer la taille d'un spécimen. Là, on a des logiciels qui nous permettent de visualiser les sons et de les décrire en temps, donc leur durée, leur rythme, en amplitude, les variations d'énergie, et puis en fréquence, savoir s'ils sont graves, s'ils sont aigus, quelle est la composition, est-ce que c'est un son harmonique, quel est le timbre du son.
Donc ça, c'est un peu les différentes dimensions du son.
Tout à fait. Temps, amplitude et fréquence. Ça, c'est quand on fait du comportement, où on a beaucoup de sons, mais ça reste faisable, j'allais dire, à la main par un expert. Mais quand on fait de l'écologie, de l'écoacoustique, on a des centaines, des milliers d'heures. Donc on ne peut pas. On ne peut pas faire ça. Donc il faut qu'on trouve des solutions qui nous permettent de caractériser ces enregistrements sans les écouter. Ou alors on écoute une seule petite partie et on regarde si nos méthodes fonctionnent bien sur cette petite partie. Donc là, on a plusieurs approches. Une première approche qu'on a développée ici, qui est d'essayer de caractériser de manière globale l'enregistrement. Par exemple, j'ai un enregistrement d'une minute, je veux savoir s'il est compliqué ou s'il est simple. Est-ce qu'il y a beaucoup de sons ou pas beaucoup de sons dedans ? Donc ça, on a développé ce qu'on appelle des indices acoustiques.
Et alors, qu'est-ce que c'est que ces indices ?
C'est des indices qui vont transformer le son, par exemple, selon un spectre fréquentiel, donc c'est la composition en fréquence, ou qui vont transformer le son en image, et on va analyser cette image et dire, est-ce que cette image est compliquée ? Est-ce que ce spectre, est-ce que dans ce spectre, il y a beaucoup de pics fréquentiels, ou est-ce qu'il est simple ?
Et qu'est-ce que ça dit du paysage ?
Ça
complexité
dit...
ou simplicité ? Qu'est-ce que ça va...
Il va nous est-ce dire si nous... le paysage est riche ou pas en son. Et on peut supposer qu'un paysage où il n'y a pas beaucoup de son dedans, il n'y a pas beaucoup de biodiversité derrière. Et même ce même paysage, on peut voir simplement sa dynamique en diversité sonore au cours du cycle jour-nuit, au cours des saisons et au cours des années. Ou même dans ce paysage, est-ce que dans ce paysage, il y a plus de son au centre du paysage ou à sa périphérie ou quand on est proche d'une ressource ou pas. Donc on va faire des cartes sonores, justement, à partir de ces indices, des cartes qui sont à la fois spatiales et temporelles.
Ah, donc on repart dans la cartographie.
On peut refaire de la cartographie. Alors on est dans la cartographie assez grossière parce qu'elle dépend du nombre d'enregistreurs que l'on a placés. Mais on est quand même dans l'espace et en plus dans la dimension temporelle. Donc on a des cartes dynamique. Il faut avoir des cartes dynamiques.
Et est-ce que le silence existe ? On parle de paysages complexes, de paysages simples. Est-ce que le silence existe ? Est-ce qu'on peut faire l'expérience du silence ? Et qu'est-ce que ça veut dire ?
Avec ces indices, on s'aperçoit qu'il y a des moments ou des endroits qui sont plus calmes, en fait, où il y a moins de son. Et on peut arriver vers une forme de silence. Tout dépend de comment on définit le silence. Si le silence est une absence de son, on peut arriver à des instants où il y a moins de son. Alors, un silence total, ça n'existe pas. Il y
aura toujours du son.
C'est subjectif. C'est une définition subjective. On peut avoir une définition absolue en se référant à des mesures acoustiques, notamment de décibels. On peut dire le silence, c'est quand il y a 0 dB. C'est-à-dire que... Pardon, 0 décibels, c'est-à-dire quand notre oreille est plus capable de discerner quelque chose. Mais ça, on ne le rencontre jamais dans un milieu naturel. Il faut aller dans des conditions spécifiques de laboratoire où tout est calfeutré. Et en fait, on ne cherche pas le silence. Ce que l'on cherche, on cherche des endroits où il y a peu d'anthropophonie. Et donc, on peut en fait parler de silence naturel. Quand je parle de silence naturel, c'est-à-dire un silence, un milieu naturel où il n'y a plus de bruit humain. Et on se retrouve dans un environnement qui passe silencieux. Il peut y avoir énormément de sons animaux, mais où le silence est du côté humain, si vous voulez. C'est le, disait Fernand Desroussel, c'est le silence des hommes.
Et alors, quel enjeu pour le présent ? Quel enjeu de l'écho-acoustique pour le présent ? Qu'est-ce que va nous apprendre l'écoute des sons de la nature ? Est-ce que ça va ouvrir des horizons, des portes ? Est-ce qu'il y a des petites révélations ? Est-ce que ça remet en question des hypothèses ? Quel enjeu pour le présent ?
L'enjeu, il est de suivre la biodiversité, de connaître l'état de nos milieux naturels. Pour l'instant, on travaille à une petite échelle parce qu'on est en phase de développement. Donc, on est vraiment en phase de recherche. L'idée, c'est de pouvoir suivre, c'est ce que fait l'Office français pour la biodiversité, de pouvoir suivre les espaces naturels et de savoir comment ils évoluent. On espère que l'écho-acoustique pourra aider ça, en produisant de nouveaux indicateurs, des indicateurs donc à large échelle, qui pourront dire, dans ce milieu, à telle heure, tel jour, on a un environnement qui acoustiquement est riche.
Et est-ce qu'on a des pistes d'hypothèses pour en parler du paysage de la forêt équatoriale ou de la forêt du Rizou ? Est-ce qu'on a des pistes ?
C'est-à-dire des pistes sur...
D'hypothèses sur l'évolution de ces paysages sonores ?
Oui, les hypothèses ne vont pas dans le bon sens. C'est que plus on aura d'activité humaine, plus on va polluer. C'est une forme de pollution pour les milieux naturels, pour les espèces animales. Les sons que l'on produit ne leur servent à rien. C'est une forme de pollution, ça les gêne, ça les perturbe, ça empêche leur communication sonore, ça les fatigue, ça les stresse, ça les repousse. Donc plus les activités humaines, plus les transports seront présents, bruyants, plus on fera de bruit, plus on les gênera, ça c'est clair, et plus on peut avoir un impact sur la biodiversité. Donc a priori ça va pas dans le bon sens. Donc bon voilà, à qui est-ce le tour de s'adapter ?
C'était Le Nouveau Monde sur les pistes du vivant. En compagnie de l'écho-acousticien Jérôme Sueur. Sixième escale, la stratégie de la mésange charbonnière. Le Nouveau Monde est un podcast original du musée Buffon en partenariat avec le Muséum national d'histoire naturelle. Il a été réalisé par Marie Casanova.